RTF Limoges, le magazine culturel.
Yvan Serrano Fontova, je te remercie infiniment de nous accorder cette interview pour Radio Trois-de-Bleu-Fête, notre radio à Limoges. Donc, on va commencer par parler de qui tu es. Donc, un musicien, un organisateur de spectacles, notamment à Limoges, avec une histoire riche. On va y revenir après. Donc, on commence par ta présentation. Je te laisse le choix de la faire comme tu le souhaites.
Okay. Ben, je m'appelle Yvan Serrano Fontova. Je suis originaire de Tulle, en Corrèze. Je suis venu à Limoges il y a déjà beaucoup d'années, et je suis musicien et donc organisateur de spectacles et découvreur de talents. Donc j'ai fait ça à Londres pendant plus de 15 ans. Et je suis revenu m'installer à Limoges, où on m'a dit tu devrais refaire un peu tes open mic que tu faisais à Londres. Et donc j'ai commencé à en faire un il y a à peu près, ouais, presque 5 ans maintenant, à l'International, le bar L'International qui se trouve place Haute-Vienne en face de la mairie. Et on a commencé comme ça, puis ça a pris, je savais qu'il y avait du talent à Limoges, parce que j'y suis resté longtemps et je pensais pas qu'il y en avait autant. Ouais, je savais qu'il y en avait, mais je pensais pas qu'il y en avait autant, et donc ça nous a permis de rencontrer plein de gens et de développer l'open mic à Limoges et aussi l'Acoustic Club, où on propose des sessions à des artistes qui composent. Et on leur donne 20 à 30 minutes pour les faire découvrir, mettre un peu de lumière, un peu comme tu fais aussi sur certains artistes de la région.
Alors, tu m'en as un petit peu parlé, la différence entre, ou l'évolution entre l'open mic, ces scènes ouvertes, quoi, grosso modo, et puis l'Acoustic Club qui est déjà réservé à des artistes qui sont un petit peu plus chevronnés. Je voulais que tu nous expliques bien comment ça a évolué dans ton organisation.
Alors l'open mic, je l'ai commencé avec mon ex qui s'appelle Christelle Deschamps, qui est originaire de Limoges. On a commencé ça à Londres fin des années 90, début 2000. On était un des premiers open mic à Londres. Et en fait, j'ai fait un peu le même système ici à Limoges, c'est-à-dire que c'est une scène ouverte, mais c'est pas vraiment une scène ouverte. C'est un micro ouvert où les gens s'inscrivent et ils font leur composition. Parce que les scènes ouvertes, c'est ouvert à tout, reprise, etc. Et là, c'est plutôt à la composition. Et en fonction des gens qui sont inscrits, des fois, il y a des choses de différents niveaux. Des choses qui sont pas encore prêtes, des choses qui sont plus ou moins prêtes. Et donc, ben, je fais comme j'ai fait à Londres avec des artistes comme Charlie Winston ou Portico Quartet, en leur disant, ben, reviens, retravaille là-dessus. Et au bout d'un moment, l'artiste est prêt. Et donc, on lui permet d'aller à l'Acoustic Club pour faire 20 ou 30 minutes, et là, je les mets en contact avec des festivals comme Éclat des Mailles, avec Jean-Michel Légoni et Elie Légoni, pour que ça puisse donner quelque chose qui puisse aller plus loin pour l'artiste, que je ne peux pas faire tout seul. Donc, ben, souvent, le premier, on a fait même un Acoustic Club spécial Éclat des Mailles, il y a maintenant 4 ans, où il y avait Anna Bouli, il y avait beaucoup de gens comme ça. Et puis, dernièrement, ils ont pris Amoureuse. Ils ont pris aussi, à chaque fois, ils prennent ce qu'ils pensent qui convient au festival, à la couleur du festival, à ce qu'ils recherchent dans la découverte locale et les talents locaux. Et puis voilà, donc ça permet, comme ce que fait d'autres gens, à mettre un maillon à plus à la chaîne pour continuer à faire travailler et donner de la lumière aux artistes du coin, quoi.
Oui, on reparlera un petit peu de Emerose, mais effectivement, le dernier festival d'Éclat des Mailles, elle était programmée 3 fois, je crois, avec son groupe, et puis en duo 2 fois. Et donc, c'est vrai que, alors maintenant, après The Voice, là où elle vient de passer, c'est un petit peu, je vais dire, je vais pas dire la tête de gondole, mais un petit peu celle dont la tête dépasse par rapport aux autres. Mais on sait, toi et moi, et puis je voulais t'en faire parler, qu'il y a beaucoup d'artistes, et notamment de chanteuses, qui sont douées et qui proposent des choses vraiment extrêmement intéressantes. On apprécie toujours ceux qui viennent d'ailleurs, hein. Ça, c'est un truc en général. Ici, on aime bien faire venir des gens d'ailleurs, et puis les gens d'ici, ils vont se produire ailleurs. Mais voilà. Alors, je voulais que tu nous en parles un peu de tous ces artistes ou de quelques-uns qui te viennent en tête.
Bah, je le vois, par exemple, moi j'ai créé mon projet musical de Staphonix à Londres, avec lequel je travaillais avec des Anglaises, des Américaines et des Jamaïcaines. Et quand on venait à Limoges, c'était waouh! Et aujourd'hui, je travaille qu'avec des musiciens locaux, et notamment avec une très bonne chanteuse de Limoges qui s'appelle Lise Delac. Il n'y a pas le même intérêt à Limoges, parce que c'est des gens du coin. Et ça se rapproche à ce que tu viens de dire exactement. Et c'est souvent, on est impressionné par ce qui vient d'ailleurs, et on ne voit même pas ce qu'il y a à côté de nous. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est notre travail à faire découvrir des gens comme Lise Delac, comme Rachel, comme Emma Rose, comme Emma aussi. Et je peux pas voir tout le monde, mais il y a beaucoup de superbes chanteuses à Limoges, ça c'est clair.
Alors, tu parlais donc Emma, c'est Emma Behrings. Emma Rose, on la présente pas. Rachel, elle chante avec les Gospel Fusion. Elle a une voix incroyable et on a eu là tout à l'heure en off la même réflexion. C'est une très très grande voix et elles sont formidables quand elles chantent ensemble. Parce que alors, c'est ce que moi j'essaye de pouvoir faire aussi. C'est bien parfois de pouvoir les réunir. À l'Acoustic Club l'année dernière, j'avais pu voir Emma Rose. Je vais dire Morgan. Emma Rose, son nom de scène avec notre ami Joël Barré, et c'était formidable quand ils ont aussi fait quelque chose à la fin.
L'idée c'est aussi que les artistes partagent leur expérience. Ce qui se passait à Londres, c'était au tout début d'une scène qui allait être assez importante, où par exemple des artistes comme Charlie Winston n'avaient pas de groupe. Et donc tous les musiciens qui venaient à l'open mic qui s'appelait Raison d'être, et après on développait, on les amenait dans les salles de prestige comme le Jazz Café ou Ronnie Scott ou même Glastonbury Festival, tout ça. Et ça connectait les gens avec d'autres musiciens, avec d'autres artistes, et ils commençaient à collaborer ensemble. Et ça a créé quelque chose de qui est vraiment sorti plus de Londres. Et je le vois aujourd'hui sur l'image. J'essaie de pousser dans ce sens-là où les gens peuvent partager des expériences, partager du talent à pouvoir faire des choses et sans qu'il y ait une compétition, notamment entre chanteuses, parce qu'elles ont quelque chose d'unique chacune d'entre elles. Et souvent, il peut y avoir de la compétition entre chanteurs ou chanteuses ou musiciens, et c'est là où ça se complique un peu.
C'est pas toujours facile. Moi, je remarque un petit peu, on parlait de nos années 80 et on en parle toujours qu'il reste une référence, mais je les vois beaucoup inspirés par la musique des années 40 à 70, c'est-à-dire à la fois le jazz, la soul, et puis la pop musique qui revient et qui est une merveilleuse musique que pas beaucoup savent bien jouer, mais qui avait des vraies racines. Alors derrière toi, on a mis un très très beau portrait de mon ami Véronique Blanc de Françoise Hardy. Ouais, alors Françoise Hardy, en plus, tu viens d'Angleterre où c'est une icône. Et je voulais que tu nous en parles un peu de ce qu'elle avait apporté, de comment elle était perçue, et finalement nous reparler de ce que tu as vécu en Angleterre.
Françoise Hardy. En fait, Françoise Hardy, elle représente la French Touch, on va dire, bien avant la French Touch, je pense, parce que c'était une femme très très belle. Et la façon dont les Françaises chantaient, ça rendait les Anglais et les Japonais complètement dingues. Cette façon fluette, on va dire, c'est pas des grandes grandes chanteuses, mais c'est des chanteuses comme France Gall, comme... Et elle représente le yéyé français beaucoup plus que des artistes majeurs français comme Johnny Hallyday, par exemple. Mais Johnny Hallyday était quand même assez connu en Angleterre parce qu'il était accompagné par les Yardbirds ou des musiciens britanniques. Mais voilà.
Même Jimi Hendrix.
Ou même Jimi Hendrix. Mais voilà, donc Françoise Hardy représente ce côté français. Et c'est vrai que moi, je collectionnais des disques, donc j'allais gratter souvent dans les vide-greniers, dans les choses comme ça. Et je trouvais énormément de disques de Françoise Hardy et de Aznavour.
Ah, Aznavour, monsieur Charles qui revient beaucoup à la mode.
J'en ai trouvé beaucoup en Angleterre. C'était deux artistes français qui étaient très très populaires dans les années 60-70. Et même la Françoise Hardy revient beaucoup avec le phénomène un peu garage rock. J'ai une amie qui est originaire de Brive, avec qui on se connaît depuis qu'on a 15 ans, qui s'appelle Fabienne Del Sol, qui elle aussi enregistre dans ce critère-là avec des musiciens britanniques. Et elle a un peu cette voix un peu française typique, fluette, avec ce petit accent légèrement qui fait craquer tous les Britanniques.
Donc, voilà. Yvan, on finit avec cette première partie, on va attaquer la deuxième. Yvan, on va parler maintenant de tes actualités en tant qu'organisateur, producteur là, de la scène locale, régionale. Donc, je sais que...
Un des organisateurs de la scène locale, je pense.
Oui, tu as raison, oui. un des. Et puis, l'objectif, c'est d'en rencontrer, pour moi, le maximum. Et ce que je disais tout à l'heure, moi, je me définis en... un petit peu en tant que rencontreur et raconteur d'artistes. Donc le rôle des animateurs que moi j'ai connu il y a 40 ans et maintenant, c'est de pouvoir faire connaître les gens qui participent à l'activité culturelle, artistique et notamment musicale.
Tu en as fait partie toi-même en tant que musicien à une autre époque.
Voilà, c'est ça, il y a 40 ans. C'est comme ça que j'y suis arrivé, parce que j'ai été interviewé. Et donc dans tes projets, là, je crois que la semaine qui arrive, il y a déjà l'international.
Jeudi 28, il y a le dernier open mic de la saison, parce qu'on arrête l'été. Et donc, si le temps est clément, on le fait sur la terrasse de l'international, donc avec la vue magnifique sur la mairie de Limoges. Et par contre, on le finit à 10h, parce qu'il faut que ça soit beaucoup plus strict, vu qu'il y a des voisins et que c'est 10h. Donc on commence vers les coups des 18h, et on finit à 22h. Donc l'open mic, il est déjà complet, tous les artistes ont déjà postulé pour faire leurs chansons. Et le prochain Acoustic Club... faut voir avec le pub le Procon, si on doit bien prononcer le Procon, qui est rue Charles Michel, où j'en ai fait 3 et ça s'est extrêmement bien passé. C'était noir de monde les 3 et ça se prête très très bien. L'Acoustic Club se prête très très bien dans cet esprit et de cette ambiance pub britannique, chose que je n'ai jamais retrouvée lorsque j'ai fait l'Acoustic Club à John Lennon ou à Jean Gagnon ou dans d'autres établissements. Là, il y a vraiment cette atmosphère, on se croirait. En plus, il y avait beaucoup de gens
un café-concert, quoi.
C'est un pub, mais on fait concert. Il y avait beaucoup de gens de Liverpool la dernière fois. Donc, on avait vraiment l'impression de ne pas être à Limoges, ce qui nous permet de nous dépayser un petit peu. Il y avait aussi Ian Livingstone, qui est un artiste de Belfast, qui habite dans la région depuis 2 ans, et qui est venu, qui nous a fait ses compositions tout en connexion avec Belfast, sa ville de naissance. Donc voilà, ça crée aussi des connexions hors Limoges aussi. C'est le but aussi.
C'est de rendre Limoges a place to be.
Bien sûr. Limoges a été la place to be dans les débuts des années 90. On était nombreux à être impliqués dans les associations, on organisait nos propres concerts. Et beaucoup de groupes de tout style passaient par Limoges parce qu'ils arrivaient, notamment les groupes américains, ils arrivaient en Hollande, en avion, et ils avaient des tourneurs, donc ils faisaient Paris, puis après ils descendaient en Espagne, Barcelone, ça, donc ils passaient à chaque fois par Limoges, et donc on avait réussi à mettre Limoges sur la carte, à trouver des groupes qui sont devenus des groupes légendaires, et qui passaient à Limoges le mardi, qu'on avait pour rien, et qu'on organisait à l'auditorium, ou à John Lennon, dans cette période-là, donc ouais, the place to be, ouais.
Tu avais des souvenirs ou des exemples parmi ces musiciens mythiques dont tu parlais?
Ah ben oui, par exemple dans la scène hardcore, il y avait beaucoup de groupes comme Biohazard, il y a eu les Madballs, il y a eu Suicidal Tendencies, des groupes de heavy metal qui sont devenus des groupes mythiques. Après, même dans le garage, moi j'organisais des événements comme les Mummies, les Phantom Surfers ou les Headcotties, qui sont devenus aussi des artistes. Chaque style de musique, avec ces artistes qui ont passé, ils sont tous devenus des légendes dans ce style-là. Et donc, la preuve, quand j'étais à New York, dans les années 90, j'avais amené des t-shirts qu'on avait fait dans un festival avec tout ça. Et j'ai réussi à les vendre devant le CBGB. Et ils sont partis comme des petits bains, parce que c'était beaucoup de groupes américains et anglais qui avaient marqué dessus. Et on était fiers, nous, à l'image, de participer tous ensemble. Et on se soutenait tous. On était plusieurs associations. Mais on se soutenait, tout le monde allait voir ce que faisait l'autre. Il n'y avait pas de compétition. Et c'était une certaine innocence qui me manque aujourd'hui, je pense.
Avec en plus, un antécédent, un aspect historique, c'est l'histoire du jazz à Limoges, grâce à Jean-Marie Masse, qui a été une immense place de jazz, qu'il reste encore dans l'esprit.
Alors moi, ça a été une découverte, parce que quand je suis arrivé de Tulle à Limoges, j'ai découvert, à l'époque, ça s'appelait Jazz FM, je crois. Et donc, bon, le gospel, le jazz, le blues. Alors, il y avait certains aspects du jazz qui passaient qui me correspondaient pas. Ce jazz des années 20, 30, c'est... Mais par contre, le blues, tout ça, je découvrais tout ça, parce qu'il fallait avoir une collection de disques incroyable. Et là, on avait celle de Jean-Marie Masse. Donc, j'écoutais, je me rappelle, j'essayais de reproduire les chansons, mais bon, mince, trop tard, ils étaient passés à une autre. Et c'était super. Et je pense que Limoges a été, pour moi, en tant que musicien, à devenir musicien a été extrêmement important. Et il y a tous les avantages à Limoges. Et il y avait, et je crois qu'il y a encore tous ces avantages-là à pouvoir écouter toutes ces belles musiques. Et Jean-Marie Masse et aussi Jean-Michel Légoni qui a repris le flambeau, pas repris le flambeau, mais qui continue dans la lignée, peut-être pas de l'esprit de Jean-Marie Masse parce que le jazz a évolué, qu'il est devenu ce qu'il est devenu, mais de mettre toujours Limoges et cette musique-là en avant. Et ça, c'est important.
Alors, avec le gospel, tu me donnes l'occasion de te redonner le micro pour parler d'une chanteuse qu'on apprécie tous les deux, qui est Rachel, donc qui chante avec les Gospel Fusion. Moi, je l'ai entendue plusieurs fois, c'est une chanteuse avec une voix incroyable. Et alors, elle va se produire bientôt, je pense grâce à toi, à la BFM. Je voulais que tu nous en dises un mot.
Alors c'est Rachel Miando. On s'est rencontrés par hasard par l'intermédiaire d'un ami qui gère des studios de répétition. Et je l'ai rencontré et un jour la BFM me dit « Yvan, est-ce que tu connais des musiciens qui peuvent faire un hommage à Aretha Franklin ?» Et je dis « Oui, j'en connais, mais ils sont à Londres. Et ça va vous coûter, je pense... »
Un bon billet
entre les work permits, le transport, plus déclarer les musiciens, ça va être trop cher et ils n'avaient pas ce budget-là. Et ils me disent, mais est-ce que tu connais quelqu'un sur Limoges ? Et moi, je suis là, non, je connais pas quelqu'un sur Limoges qui peut être en capacité de faire ça. Et donc, j'ai pensé à Rachel parce que je l'avais vue et donc je lui ai proposé, elle est venue à l'open mic, elle a fait deux ou trois chansons. Et je dis, ben c'est bon, elle peut le faire, quoi. Et donc, je les ai mis en contact avec la BFM, qui l'ont programmé pour le 20 juin. Toute la journée, à la BFM, il y a un hommage à Aretha Franklin. Donc, Rachel va faire un concert de 30 minutes à 14h, et elle en fait un autre à 17h, je crois. Et entre-temps, il y a des blind tests, il y a plein d'animations autour de Aretha Franklin. Et je trouve que ça lui va bien, parce que elle a le côté aussi... De la foi qui va avec cette musique-là. Et c'est une personne qui reflète exactement cet esprit-là, je trouve. Et j'étais surpris de rencontrer quelqu'un comme ça à Limoges.
La soul d'Aretha Franklin, c'est finalement la fille du gospel et donc du jazz. Hein.
C'est son père était pasteur, je crois. Et puis elle a appris, comme Rachel d'ailleurs, Rachel a appris à partir de 10-11 ans à chanter dans le gospel fusion, je crois. Et donc voilà, elle a la culture qui va avec.
Alors tu sais qu'ici, dans l'endroit où on est, on avait accueilli il y a un an et demi Debbie, qui chantait Le Roi Lion, mais qui a chanté aussi avec Al Jarreau. Et quand elle s'est retrouvée avec Emrose, qu'est-ce qu'elles ont chanté ensemble ? Bah respect, Aretha Franklin. Donc là, t'es dans la bonne salle.
Ben déjà, c'est des femmes. Et cette chanson, elle est très symbolique. Et je pense qu'en même temps, c'est des superbes chanteuses. Et comme je disais, moi, je suis pas un chanteur. J'aime pas forcément chanter. Mais ces femmes-là, ou des hommes qui savent chanter et qui aiment chanter et qui aiment partager cette voix et qui sont en harmonie avec elles-mêmes pour chanter, mais c'est magnifique. Et donc ça se voit quand elles chantent. Ces femmes-là, elles font plus que chanter. Elles partagent quelque chose d'autre qu'une école ne peut pas vous apprendre, ou l'argent ne peut pas acheter. C'est quelque chose que... C'est la soul. C'est la soul.
Merci, Yvan. On finit avec cette deuxième partie, puis on va attaquer la troisième et dernière. Yvan, on attaque cette troisième partie. Alors, j'avais très envie de te poser, parce que tu es musicien, on a parlé de cet aspect en tant qu'organisateur ou faisant connaître tous ces artistes, tu es musicien aussi, et la question que j'avais très envie de te poser, c'est comment est-ce que tu es arrivé à la culture, à la musique, à l'art d'une façon générale ?
Alors, je pense que ça vient déjà par ma mère et mes parents, mais pas par rapport à la musique. Ma mère, je devais avoir 9 ans. Elle s'était rendue compte qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier avec moi. Je devais être j'étais très actif, enfin très. Et là, elle s'était rendue compte que la musique, elle me calmait ou elle me focalisait. Donc elle m'avait offert un 45 tours de Bob Marley, Could You Be Love. Elle avait déjà. Mais là où j'ai compris, c'est je travaillais dans le bar de mes parents. J'étais gamin et comme j'étais un enfant, les gens me donnaient beaucoup de pourboire. Et à un moment donné, j'ai pu m'acheter une guitare. Je suis allé chez le luthier de Tulle et j'ai acheté cette guitare. Je me rappelle, j'avais payé 800 francs. Une espèce d'imitation Les Paul avec le manche cassé, décollé, noir. Et je l'ai ramené chez moi. Et ma mère m'a dit, pourquoi t'as acheté une guitare, tu sais pas en jouer? Et là, mon monde s'est écroulé. Je lui dis, bah écoute, chez nous on fait de la boxe et du rugby, et sans gants et sans ballon on peut pas jouer, donc j'ai acheté une guitare. Et ça m'avait vexé de savoir que j'aurais pas le soutien de ma propre mère là-dedans. Et à l'époque, j'étais sollicité par des personnes pour rentrer dans des, on va appeler ça des équipes de foot ou des équipes de volley ou des équipes quoi, pour à faire des certaines bêtises quoi. Et à chaque fois je refusais et ces gens-là me donnaient des cadeaux, voilà, pour que je fasse partie de ces équipes de foot ou de volley. Et j'ai appris à jouer de la guitare tout seul, à l'accorder, etc., etc. Et un de ses amis qui voulait former ces équipes de foot, avec qui, en étant amis d'enfance, on allait dans les bois se tirer dessus, on avait 6-7 ans à se tirer dessus avec des carabines à air comprimé. Quand je suis venu en France, je l'ai retrouvé, et il sortait de prison. Il avait pris presque 2 décennies pour grand banditisme. Et il était interdit de séjour, donc dans la région, je pouvais pas le voir. Donc je suis parti dans une autre ville pour aller le rencontrer. Et la première chose qu'il m'a dit, j'aurais dû faire comme toi. Donc cette guitare, en fait, m'a sauvé la vie, dans le sens que la musique m'a empêché d'aller dans une autre direction où j'aurais fini forcément mal. Et donc là, ça, c'est le pouvoir de la musique, de pouvoir déjà la partager, elle fait du bien. Et si elle nous fait du bien à nous, elle fait du bien aux autres. Et toi-même, tu as été musicien. Et tu sais combien que quand tu joues, tu partages, tu donnes. Et c'est ça qui est magnifique dans la musique. Et je remercie, je sais pas qui c'est que je remercie, mais en tout cas, je les remercie tous les jours.
Bah, moi, j'ai des histoires un petit peu similaires aux tiennes. Moi, il y avait le piano de ma maman qui était un piano, un Pleyel, qui a un siècle, qui est en cadre métallique que j'ai donné à une musicienne. Donc, j'ai donné tous mes instruments. Et mon Fender au Arnaud Castellano, donc au pianiste qui accompagne. Voilà. Et à Morgane, mon ampli. Donc, je suis très, très heureux de ça parce que, voilà, ils ont une
suite. Ils continuent à vivre.
Exactement, voilà. Et donc, moi, c'est mes grands-parents qui avaient un restaurant en face des Halles. Et puis, toute la famille était dans la musique classique. Et c'est que mon papa, lui, était quand même habité par le jazz qu'il a fait rentrer à la maison, voilà. Et après, je me suis retrouvé à apprendre aussi sur ce piano, voilà, tout seul. L'histoire que tu me racontes, c'est grâce à la musique que je suis pas devenu voyou. Grosso modo, hein. Et tu sais que cette histoire, c'est pas une histoire que tu es le seul à avoir vécu. Moi, je me rappelle que et John Lennon et Paul McCartney ont raconté la même.
Alors, je savais pas, mais en tout cas, je sais que j'ai rencontré souvent des personnes impliquées dans la musique et on a tous un peu les mêmes pathologies. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est réfugié dans la musique. Parce qu'enfant, il y avait quelque chose qui ne devait pas fonctionner, et donc on s'est réfugié dans la musique. Et le fait que de vouloir faire de la musique, ou de même quand j'étais gamin, j'avais 13-14 ans, j'allais acheter des disques à Emmaüs, parce que ils étaient pas chers, c'était des disques de cha-cha-cha, ou d'afrobeat, etc. Ça m'a permis de me donner une direction que ni ma famille, ni l'école, ni la société pouvaient me donner. Mais la musique me donnait cette route, me disait, vas-y, fonce là-bas, il y a quelque chose pour toi. Et l'école me disait pas ça. Ma famille me disait pas ça. Et ni la société, d'ailleurs. Il y avait rien pour moi. Ou alors, il fallait que ça soit dans leurs termes à eux que je refusais.
Voilà, donc, en fait, tu réponds à ma question. La musique, c'est quoi? Une route?
Ouais, c'est une route. Pour moi, la musique, et surtout quand j'ai commencé à comprendre l'anglais, En collectionnant les disques de jazz, de rhythm and blues, de soul, de gospel, etc., etc., ça a été mon école. Parce que ce qui racontait surtout la musique black américaine, donc qui est considérée comme la musique de pauvres, mais aussi bien la musique de pauvres blanches, ce qui racontait, il racontait les choses de la vie. Et en fait, à l'époque, les gens pauvres, entre guillemets, n'allaient pas à l'école. Et donc, ils étaient éduqués, entre guillemets, par des gens comme James Brown ou d'autres artistes avant, qui leur disaient des choses comme « Don't be a dropout »,« Il faut que tu travailles bien à l'école » ou des choses comme ça. Et ça m'a permis de comprendre la vie grâce à la musique. C'est un peu comme une religion, en fait. C'est totalement ça. C'est mon éducation, ma religion et la route, quoi. Et voilà, je pense que ça sert à ça aussi, la musique tous les jours. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, parce que quand on est heureux, ben on va jouer de la musique, ça va nous rendre heureux. Et quand on est malheureux, on va écouter de la musique et ça va nous aider à broyer du blues. Et puis le lendemain, tout va mieux, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois, la musique. C'est vraiment un bien-être. Et même si on parle pas la même langue, on va réussir à en faire ou en écouter ensemble. Et ça, c'est un langage universel que...
Un partage.
Ouais, un partage, mais même une histoire que nous avons tous ensemble sur cette planète. Tous les gens qui sont nés sur cette planète, on a ça en commun. C'est la musique. La musique, on l'a en commun. Et pas forcément que la musique moderne d'aujourd'hui ou du Moyen-Âge, même la musique primitive qui sont imiter le tonnerre et taper sur un bout de bois et imiter le son du tonnerre. C'est ça, on a tout ça en commun. Et ça, il faut pas l'oublier, ça, qu'on a ça en commun. Donc la vie, la musique, en commun.
Yvan, je te remercie beaucoup pour cette interview. Alors, je t'ai proposé avant, j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux venir avec ta guitare? Donc, on va faire une quatrième partie. Là, tu vas pouvoir prendre ta guitare et puis jouer, chanter ce que tu veux. Voilà, et puis, merci infiniment pour cette rencontre.
Qui vous remercie. Je remercie tous les deux de m'avoir accueilli ici.
Ah voilà, nous, on est heureux de pouvoir être ce lieu d'accueil, finalement dehors d'un studio, mais on recrée au studio.
Oui, mais ça crée une atmosphère unique, détendue, il y a moins de pression parce que c'est pas dans un studio, justement. Voilà.
Merci, Yvan.
Ben, c'est moi qui te remercie, Philippe.
Alors, cher Yvan, en préparant là, avec ta guitare, tu es en train de me raconter plein de choses très intéressantes, des artistes avec qui tu avais collaboré hors la chaîne régionale. Alors là, tu étais en train de me dire comme DJ notamment, et pas que, comme artiste associé, avec qui tu avais travaillé. Et notamment, moi, des artistes qui m'ont fait rêver, quoi.
À Londres, j'ai souvent me demandé d'être DJ pour des légendes, des grandes légendes, et notamment Bo Diddley. Et quand j'étais gamin, j'avais 14 ans, j'avais été à la bibliothèque de près. Trouver le premier album de Bo Diddley, ça m'avait marqué, c'est l'artiste qui m'a marqué le plus. Et un jour, on me demande d'être DJ pour lui. Et il joue 2 jours à Londres. Il me dit, t'es DJ pendant 2 jours avec lui, donc je suis DJ. Et le soir de son premier concert, sa bassiste me voit, elle me dit, apparemment, t'es un gros fan de Bo Diddley, est-ce que tu veux passer du temps avec lui demain, dans l'après-midi? Et donc, j'ai passé un après-midi avec Bo Diddley. Et il a même participé sur un des morceaux des Dostaphonics. Après, j'ai été DJ aussi pour Chuck Berry, pour Art Akit, la grande Art Akit. J'ai été DJ pour Ike Turner, pour les Sonics, pour Wanda Jackson, qui d'autre encore, pour Catherine Ringer quand elle venait à Londres, pour ses fêtes privées, pour les after parties, Vanessa Paradis aussi, Manu Chao quand il venait à Londres, enfin plein. Et en France, j'ai fait à l'Aéronef de Lille avec Sanseverino. On avait fait une collaboration artistique entre les deux Dostaphonics.
On va en parler pour nos amis de Saint-Maurice-les-Brousse, parce que Stéphane Sanseverino vient à Saint-Maurice-les-Brousse fin octobre. Et le lendemain, notre ami Emreuse fera la première partie de Cali.
Stéphane Sanseverino est un artiste incroyable. Je trouve que c'est un artiste français incroyable, avec énormément d'humour. On avait passé une semaine ensemble avec son équipe et mon équipe londonienne des Dostaphonics à Lille. Et l'équipe de l'Aéronef était fantastique. Et artistiquement, humainement, musicalement, c'était fantastique. En plus, c'est un ancien de Psychobilly comme moi. Donc on avait aussi des repères, et notamment le batteur des Météores, le batteur original des Météores, qui vit à Bordeaux, est venu enregistrer un morceau avec nous il n'y a pas longtemps, avec les Dostaphonics à Limoges. Donc voilà, je me rappelle plus tous les noms avec qui j'ai pu faire des choses, mais ouais, j'en ai eu pas mal. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Ouais.
Alors, tu sais, tu parlais quand même vraiment d'une icône du rock'n'roll, l'un des pères du rock'n'roll, qui est Chuck Berry. Alors oui, Bob Dylan, bien sûr, mais tu as parlé de Chuck. Moi, je me rappelle toujours, c'est John Lennon s'apprêtant à jouer avec Chuck Berry qui lui dit « Chuck, my hero ».
Alors moi, c'était pas mon héros, Chuck Berry. Et d'ailleurs, donc, les open mic que j'organisais à Londres s'appelaient « Raison d'être ». Et donc, on en avait créé un collectif de musiciens. Et de l'open mic, je sélectionnais les musiciens et je les présentais sur des scènes importantes de Londres. Et donc, j'avais demandé à Spanky Wilson, aussi, une légende de la soul music, d'être la marraine de Raison d'être. Donc, elle avait accepté. Et j'avais demandé à Bob Dylan qui avait accepté aussi. Donc, ils avaient signé les contrats, enfin, un contrat. C'était les parents et marraines officiels de Raison d'être. Et un an après que Bob Dylan ait signé et avec qui j'avais été DJ à Londres, est décédé. Ce jour-là, j'ai pleuré comme si j'avais perdu mon propre grand-père. C'était dur. Et quelques semaines après, on m'appelle, on me dit, Yvan, il y a Chuck Berry qui va jouer au Jazz Café. Est-ce que tu vas être le DJ pour Chuck Berry? Et moi, je suis là, je sais pas. Je rigole, je dis bien sûr, mais pas de problème. Et donc, Bob Dylan m'avait dit qu'il était d'accord d'être le parrain de Raison d'être à une seule condition, c'est qu'on continue à faire savoir à la nouvelle génération que Chuck Berry, Little Richard et Bob Dylan avaient été les piliers, les précurseurs du rock'n'roll. Sans parler de Ike Turner, bien sûr, mais c'était ces trois-là.
Et Elvis Presley, même pas.
Non, parce que Elvis est arrivé après. On parle des racines de cette pyramide. Je pense que le premier, ça a été Ike Turner avec Rocket 88, le premier disque de rock'n'roll officiel en 54, je crois. C'est Rocket 88.
Et That's Right, Mama, c'est 54 aussi. Hein?
Oui, mais non, mais c'est peut-être pas 54 alors. Parce que That's Right, Mama, c'est après Elvis, ça a été important à faire découvrir le rock à un public autre. Et donc, Bob Dylan m'avait dit, si je pars, il faut demander à Chuck Berry. Et donc, moi, après le concert, je vais voir Chuck Berry dans les loges. Et donc, il y a sa garde rapprochée, notamment sa femme. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, ben voilà, je explique que Bob Dylan a été le parrain de notre organisation et que, voilà, comme il est décédé, il m'avait dit de demander à Chuck Berry. Et là, de suite, elle me demande, oui, mais Chuck Berry n'est pas Bob Dylan. Ça m'avait un peu vexé quand même. Et puis j'ai dit, mais elle m'avait dit, combien tu payes? Et j'ai dit, Bob Dylan, il n'a rien demandé. C'était juste quelque chose de symbolique, vous voyez. Elle dit, non, combien tu payes? Et je me rappelle, je lui avais dit, $5, donc $5. Elle s'était retournée vexée, mais voilà, c'est. Donc j'ai pas pu vraiment serrer la main de Chuck Berry, alors que j'ai passé l'après-midi avec Bob Dylan. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, avec Bob Dylan qui a fait découvrir des gens comme Marvin Gaye et des choses comme ça, qui faisaient aussi, avant nous, le travail de passeur ou le travail de découvreur de talent aussi. Donc voilà, la boucle était bouclée pour moi.
Bon, alors, bah, écoute, on t'entend dans ta chanson qui s'appelle comment?
Alors, c'est une chanson qui s'appelle Comme dans les films de Fellini. C'est une chanson que j'ai écrite à un moment crucial de ma vie où j'avais eu un accident assez important. Et il a fallu que je reprenne à parler, à marcher, à rejouer de la guitare. Et quand je suis revenu, j'avais passé quelques temps à Paris chez une amie. Quand je suis revenu, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Comme dans les films de Fellini. Donc, m'en voulez pas si c'est pas parfait. Comme dans les films vintage, cinémascope, noir et blanc. J'adore ton sourire technicolor, grand écran. C'est dans la ville lumière, ou demain, déjà hier. Courte vie, monochrome, tout en train, v'ligne à rien. Et elle disait, uno, dos, tres, cuatro. Comme dans les films de Fellini. L'accent italien, c'est charmant. Comme dans les films de Fellini. On se voit sur l'affiche et tout le temps. C'est dans la ville lumière que j'ai vu dans tes yeux. Générique d'ouverture, ça tourne pour nous deux. dans cette ville lumière, plan séquence bien cadrée, où nos cœurs tatoués se sont mis à rêver. Et elle disait, uno, dos, tres, cuatro, comme dans les films de Fellini. L'accent italien, c'est charmant, comme dans les films de Fellini. On se voit sur l'affiche tout le temps. Soleil avec toi, la Berlando Chelita, la Berlando Chelita, la Berlando Chelita. Et elle disait, comme dans les films d'affaires, l'accent italien est charmant, comme dans les films d'affaires, on se voit sur l'affiche.
Waouh, quelle incroyable chanson. Merci infiniment, Yvan.
Ben, merci à vous, Philippe, et à vous deux. Comme dans les films de Fellini. D'ailleurs, on a enregistré une version avec mon groupe, les Destaphonics, mon projet Destaphonics, avec Lise Delac, une chanteuse de Limoges. Donc voilà.
On va vous entendre bientôt sur scène.
Je sais pas. Si on nous propose de jouer, nous on joue. Mais vous pouvez le découvrir sur Bandcamp ou dans les magasins ici en vinyle à Point Chaud ou à Undersound à Limoges.
À bientôt. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
C'était le magazine culturel sur RTF. Retrouvez-nous également sur internet rtflimoges.com.